Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Peut-être vous avez entendu l'expression dans l'église « il ou elle est converti » ou des variations sur le même thème « il ou elle est très converti » ou « il ou elle n'est pas très converti ». Nous trouvons les deux mots « conversion » et « se convertir » dans la Bible. Mais nous pouvons également avoir de fausses idées à propos de ce qu'est la conversion. C'est quoi au juste la conversion? Et ça m'emmène au titre de ce sermon « Qu'est-ce que la conversion ?» Pour mieux faire comprendre, j'ai voulu commencer avec ce que la conversion n'est pas. Nous sommes peut-être familiers avec l'enseignement que Jésus nous aime tel que nous sommes sans qu'on ait besoin de changer, qui veut que nous nous sentions bien dans notre peau. Oui, Dieu veut que nous ayons une paix intérieure, mais cela passe par le chemin de la conversion, du changement. L'enseignement que Jésus nous aime tel que nous sommes, en se déchargeant de tout besoin de changer, n'est pas correct. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de conversion. Il faut avoir la notion correcte du repentir pour pouvoir changer comme Dieu demande. Et il faut également savoir de quoi se repentir. J'ai voulu vous montrer un exemple dans la Bible qui montre justement la manque de conversion. Et par la même occasion, nous pouvons regarder cet exemple pour voir ce qu'est la conversion, ce qui était la conversion à l'époque de l'Ancien Testament. Par la suite, nous allons revenir au Nouveau Testament pour ajouter une dimension qui, dans son ensemble, n'existait pas à l'époque de l'Ancien Testament. Judas ne voulait pas se convertir. Et nous avons l'histoire de Judas dans Jérémie chapitre 5, entre autres, qui parle du fait qu'il ne voulait pas se repentir. Il faut savoir que les enfants d'Israël avaient une longue histoire de convoitise, de pratiquer les philosophies païennes et les pratiques du monde de Satan. Or que Dieu les avait donné la meilleure religion, la seule vraie religion sur la terre. Nous allons regarder Jérémie, si vous voulez bien, nous allons regarder Jérémie chapitre 5. Et on va commencer avec le verset 1. Jérémie chapitre 5 et le verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places si s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Ce verset implique le fait qu'il ne trouvait personne, justement, qui pratiquait la justice, qui s'attachait à la vérité, personne qui était converti, comme nous allons voir tout à l'heure. Verset 2. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Il y avait une insincérité. Et nous pouvons contraster ceci avec les pains sans levain, où il est question de la pureté et de la vérité. Pureté, dans le synodal, est traduit par sincérité. Sincérité et de la vérité. Verset 3. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes Ils ne veulent pas recevoir instruction. C'est des gens qui n'étaient pas réceptifs, des gens pas convertis et qui n'étaient pas réceptifs justement à l'instruction. L'instruction de Dieu. Ils prennent un visage plus dur que leur roc. Ils s'endurcissent, justement. Ils s'endurcissent. Ils refusent de se convertir. Ils refusent de se convertir. Verset 4. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Et justement, pour pouvoir se tourner vers Dieu, pour pouvoir se convertir, il faut connaître la loi de Dieu, pour pouvoir se tourner vers Dieu. Verset 5. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la voie de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Ils ont rejeté l'autorité de Dieu et ils ont rejeté des contraintes. Dans le verset 7 et le verset 8, Dieu décrit aussi le comportement de ceux qui ne sont pas convertis. Et au niveau des mœurs, cette fois-ci. Verset 7. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu le serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent ça et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. C'était un peuple à l'époque qui était récalcitrant. Et ça s'explique aussi dans le verset 20 et le verset 21. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils sont spirituellement, ils sont aveugles et ils sont sourds. Mais justement, ce mot récalcitrant, qui veut dire se montrer rebelle à faire quelque chose ou qui résiste, et une autre définition parle de récalcitrant, donc résister avec opiniâtreté. Le mot récalcitrant vient du latin recalcitrara, qui veut dire rejamber. Et ce mot rejamber, c'est intéressant parce que nous le trouvons, par exemple, dans Deutéronome chapitre 32 et le verset 15. Deutéronome chapitre 32 et le verset 15. Il s'agit ici du cantique de Moïse, qui est, entre autres, une prophétie de ce qui allait arriver aux enfants d'Israël, de la rébellion future des enfants d'Israël. Dans le verset 15, Israël est devenu gras et il est rejambé. Tu es devenu gras, épais et replé. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Et il est certain que quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut est moins enclin, logiquement, la plupart du temps, à rechercher Dieu. Dans nos pays occidentaux, nous avons un niveau de vie nettement supérieur à ce que nous avons connu dans le passé. Mais il y a très très peu de personnes qui recherchent Dieu. Le même mot en hébreu est traduit un peu différemment dans 1 Samuel chapitre 2 et le verset 29. 1 Samuel chapitre 2 et le verset 29. Je m'y rapporte pas. Pourquoi foulez-vous, donc c'est le même mot en hébreu, Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes ? C'était ici un reproche à l'époque de d'Élie, l'époque de Samuel, c'était un reproche de la part de Dieu à Élie. Un reproche de la part de Dieu à Élie. Foulez-vous aux pieds. Jérémie chapitre 8. Dans Jérémie chapitre 8, nous trouvons le même mot que dans Jérémie chapitre 5. Et c'est également la même traduction, se convertir. Et nous allons voir dans le verset 5 et le verset 6 que Judas n'avait pas de cœur à ne pas s'égarer. Il persiste et signe. Le désir n'y est pas. Le désir de changer n'y est pas. Le désir de se convertir n'y est pas. Et dans le verset 5, nous lisons ceci. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? À de perpétuels égarements. Dieu, bien sûr, a entendu leur cri dans le passé. Quand ils criaient vers Dieu, ils étaient dans la détresse, dans l'oppression, tellement de fois, et Dieu était intervenu pour les sauver. Mais ici, nous voyons, à cette époque, à l'époque de Jérémie, il n'allait pas, il voulait pas changer. Il ne voulait pas revenir vers Dieu. La suite du verset 5, il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Voilà ce même mot. Verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Il ne parlait pas correctement. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Il n'y avait pas de prise de conscience collective de la part de Judas à l'époque. Tous, je continue le verset, tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Comme un cheval qui se lance au combat, il y a un commentaire, c'est ma traduction, qui dit ceci. Comme le cheval se précipite dans la bataille qui dénote, par rapport donc à Judas, ça dénote leur rapidité pour commettre le péché, pour pécher. Le plaisir qu'ils prennent lorsqu'ils pêchent et leur manque d'attention au danger et à la mort qui s'ensuit. Dans ce contexte, j'ai trouvé intéressant l'expression comme un cheval qui s'élance au combat. Et j'ai regardé sur Internet un petit peu pour savoir pourquoi les chevaux n'ont pas peur, apparemment, quand ils allaient dans la bataille. Et la réponse, il y a deux réponses, si vous voulez. Premièrement, ils sont formés pour ceci. Ils avaient été formés à l'époque pour se lancer dans la bataille. Mais il y a une deuxième explication aussi, deuxième raison, c'est parce que ce sont des animaux, ce qu'on peut appeler des animaux de troupeau. Ils suivent les autres chevaux. Les chevaux sont des animaux au sens social très développé et qui préfèrent vivre en groupe. Et là, ils restent ensemble en tant que groupe. Déjà à l'époque, les gens suivaient la foule. Nous avons dans le verset 6, dans le second, le mot « tous reprennent leur course ». Et l'Ostewald, le Martin, le Darby, utilise le verbe « retourner ». Jérémie chapitre 3 est un genre de plaidoirie de la part de Dieu à l'égard de son peuple. Et de nouveau, nous trouvons ce même mot à travers le chapitre 3, Jérémie chapitre 3. Ici, c'est traduit dans l'ensemble par le mot « revenir ». Revenez. Revenez vers Dieu. Dieu parle avec émotion à son peuple. Verset 10, Jérémie chapitre 3, et le verset 10. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenu à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. Verset 12. Comme j'ai dit, nous retrouvons ce même mot à plusieurs reprises. Va, crie ses paroles vers le septentrion et dit, reviens, donc le même mot. Infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Le verset 13 n'utilise pas ce mot, mais le verset 13 parle d'un aspect de la conversion, quelque chose qu'il faut faire pour arriver à la conversion. Verset 13, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sur tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. C'est souvent une chose très difficile pour un être humain d'admettre qu'il a tort. Judas n'avait pas reconnu leur iniquité. Et Judas, à ce moment-là, n'a pas pris le chemin de la conversion. Verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Revenez, encore le mot, donc, nous voyons ici. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je répète la même phrase dans le verset 22. Revenez, toujours le même mot, revenez, enfants rebelles. Le sens ici, dans tous ces versets, c'est le fait de revenir vers Dieu. Et nous savons bien que l'homme s'est éloigné de son Créateur. C'est un thème à travers ces quelques versets, une supplication. Dieu implore. Le même thème est repris dans le chapitre 4, le verset 1. Chapitre 4, verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. C'était pour le bonheur de son peuple que Dieu voulait qu'il revienne vers lui. Pour le bonheur. Dans Ézéchiel, nous avons un certain nombre de traductions supplémentaires, toujours de ce même mot. Nous voyons ceci dans Ézéchiel, chapitre 18, et le verset, d'abord pour commencer, Ézéchiel, chapitre 18, et le verset 32. Ézéchiel, chapitre 18, et le verset 32, nous lisons, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Le lexique « loueur » parle de retourner ou de revenir, ce que nous avons déjà vu tout à l'heure. Et donc il s'agit ici, d'après Ézéchiel chapitre 18, verset 32, d'un chemin qui mène à la vie. « Convertissez-vous donc et vivez. » Nous retrouvons ce mot à maintes reprises dans le chapitre. Comme j'ai dit, c'est traduit différemment et ça c'est intéressant parce que ça donne une idée de la puissance du mot. Ça a à voir avec le changement dans le bon sens, tout au moins dans ce contexte. Verset 8. On parle de quelqu'un qui est juste, qui ne prête pas intérêt, qui ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité. Donc, qui détourne sa main. Toujours le même mot. Et quelqu'un qui n'est pas converti ne détourne pas sa main de l'iniquité. Verset 17. S'il détourne sa main de l'iniquité, c'est la même chose qui est reproduit ici, la même traduction. Verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il revient de tous les péchés qu'il a commis, le mot revenir. Le verset 23 est aussi intéressant. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite? Voilà. Toujours ce même mot en hébreu, change de conduite. Mais il y a un aboutissement, qu'il change de conduite et qu'il vive. Le verset 25 ne contient pas ce mot, mais ça démontre le contraste entre la voix de Dieu et la voix des hommes, la voix de maison d'Israël à l'époque. Verset 25, vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Verset 27, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice. Donc, les méchants n'étaient pas convertis, ils vivaient dans la méchanceté, ils ne pratiquaient pas la droiture et la justice. Mais si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Le verset 28. S'il ouvre les yeux et se détourne, toujours le même mot, s'il se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Donc, quelqu'un qui n'est pas converti, c'est quelqu'un qui vit dans les transgressions, qui vit dans le péché. La version Martin dit ceci à propos du verset 28. Ayant donc considéré, j'aime beaucoup cette traduction parce que justement, pour pouvoir changer, pour pouvoir se convertir, pour pouvoir se repentir d'abord, il faut d'abord considérer. Et le Martin dit donc, ayant donc considéré, entre parenthèses, sa conduite, et s'étant détourné de tous ses crimes, qu'il aura commis, certainement il vivra, il ne mourra point. Le verset 29 est une autre comparaison, une comparaison de nouveau. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite, est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël, ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Verset 30. Dieu donne des précisions ici à propos de quoi il faut revenir. Il faut se détourner. Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous. De quoi? De toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Transgression et iniquité. Deux caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas converti. Quelqu'un qui a besoin de se détourner de ses transgressions et de ses iniquités. Et là, il parle à la fin du verset 30, ne cause pas votre ruine. Proverbe chapitre 21, verset 15, je m'y rapporte pas. Proverbe chapitre 21, verset 15, dit ceci, c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Et Dieu ne veut pas, ne voulait pas déjà, et ne veut pas pour nous, il voulait pas déjà que les enfants d'Israël prennent le chemin de la ruine. Dans le verset 30 toujours, dans le verset 30, nous avons retrouvé deux mots, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Revenez et détournez-vous. C'est toujours ce même mot, et c'est ce même mot qui est répété deux fois là, traduit différemment en français, revenez et détournez-vous, mais c'est le même mot en hébreu. Et c'est un cri de cœur, si vous voulez, de la part de Dieu, revenez, détournez-vous, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. L'Ostevald dit ceci, convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Encore un autre mot qui illustre la voix justement de quelqu'un qui n'est pas converti, qui vit dans le péché. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. La Bible dit bien, rejetez loin de vous, c'est une volte-face. C'est un changement profond, c'est un changement radical. La conversion a à voir avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. On n'a pas terminé la fin du verset 31. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi prendre ce chemin qui mène à la mort? Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est un changement considérable. Et sur un plan spirituel, cela nous permet de vivre, d'avoir accès à la vie éternelle. Parce que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, il y a une différence pour commencer, c'est que il faut que Dieu ouvre l'esprit. C'est ce que nous voyons, je ne me rapporte pas à Jean chapitre 6, 44. Il faut que Dieu appelle, c'est un miracle. Et nous avons à ce moment-là, quand Dieu appelle, Dieu nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre la loi de Dieu, pour que nous puissions avoir la connaissance de Dieu et la connaissance de la loi de Dieu. Et à partir de ce moment-là, et seulement à ce moment-là, est-ce que nous pouvons nous trouver dans la même situation que les enfants d'Israël, sur un autre plan, mais dans le sens que nous comprenons, nous avons la connaissance de la loi de Dieu, comme les enfants d'Israël l'avaient à l'époque. Actes chapitre 26 et le verset 20. Nous voyons ici deux choses qui vont de pair, qui vont ensemble. Actes chapitre 26 et le verset 20. Je commence à lire à partir du verset 19 pour situer le contexte. En conséquence, roi Agrippa, c'est Paul qui parle, je n'ai point résisté à la vision céleste pour la parler de sa conversion dans les versets précédents. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché deux choses, la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La conversion à Dieu. Et l'ouvrage Loueur parle, donne comme définition de ce mot, se tourner vers l'adoration du vrai Dieu ou causer le retour, ramener à l'amour et l'obéissance de Dieu. C'est la même notion de ce que nous avons déjà vu dans Ézéchiel 18 et le verset 32. Mais à partir de ce moment-là, ce qui nous concerne, à notre époque, dans le Nouveau Testament, si Dieu nous ouvre l'esprit, ou quand Dieu nous ouvre l'esprit, c'est notre responsabilité. Nous pouvons accepter ou nous pouvons rejeter la vérité. Accepter la Bible en tant que la parole de Dieu. Et si nous acceptons la parole de Dieu, la vérité, Dieu peut, à ce moment-là, nous accorder le repentir. Le repentir, c'est un don. Mais la base est là, il faut connaître la loi de Dieu et s'y conformer. Ça commence notre changement. Nous commençons à nous tourner vers Dieu. Actes chapitre 3 et le verset 19. Actes chapitre 3 et le verset 19. Nous lisons ceci. Repentez-vous, donc sermon de la part de Pierre. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Convertissez-vous. C'est le même mot que ce que nous avons vu tout à l'heure dans Actes chapitre 26, le mot grec épistrepho. Barnes précise que le mot, bon, c'est ma traduction, veut dire retourner à un sentier où on s'est égaré, de quitter les péchés ou de les abandonner. Et c'est un mot qui désigne dans un sens général le fait de tourner complètement vers Dieu. La conversion est quelque chose qui est très active, c'est pas passif du tout. Il y a deux écritures qui illustrent ceci, qui illustrent, qui expliquent le sens. D'abord dans Actes chapitre 26, le verset 17, c'est le même chapitre qu'on a vu tout à l'heure. Il s'agit de deux versets qui précèdent ce que nous avons lu. Verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Qui passe, épistrepho, qui passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est diamétralement opposé. C'est un changement radical, un changement énorme. La version de Jérusalem traduit cette phrase comme ceci, « afin qu'elle revienne des ténèbres à la lumière ». Et « Shuraki » qui se détourne des ténèbres vers la lumière. Ça, c'est le premier exemple qui illustre justement le sens du mot. Le deuxième se trouve, dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 25. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. De nouveau, épistrepho, nous avons ici l'idée d'un changement complet. Le fait de quitter notre mauvaise voie pour aller vers Dieu, un volte-face, c'est très très actif. Tout ça parce que Dieu nous a ouvert l'esprit. Et le processus de conversion commence par le repentir. Dans Ésaïe chapitre 55 et le verset 7, je lis, je m'y rapporte pas, Ésaïe chapitre 55 verset 7, nous lisons que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne, toujours ce même mot en hébreu, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La conversion est un processus qui débute avec le repentir et s'est suivi par le baptême, par immersion et par l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible révèle que nous aussi nous devons, pour devenir des chrétiens convertis, subir une véritable métamorphose, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Romains chapitre 12 et le verset 2. Romains chapitre 12 et le verset 2. Nous lisons ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous savons que les apôtres ont beaucoup changé Jean, par exemple, qui a voulu appeler le feu du ciel, est devenu, avec ce changement, l'apôtre de l'amour. Et un chrétien qui est converti est sur une autre longueur d'onde. C'est quelqu'un qui peut discerner la volonté de Dieu, qui a les yeux pour voir et un cœur pour voir. Il est devenu une nouvelle créature. C'est ce que nous voyons de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a une autre perspective de la vie. La transformation a eu lieu, même si le vieil homme va surgir de temps à autre. Maintenant, si nous mettons deux écritures ensemble, Actes chapitre 3, verset 19, que nous avons déjà lu, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il parle donc du pardon des péchés. Et dans Actes chapitre 2 et le verset 38. Actes chapitre 2 et le verset 38, nous lisons ceci. Pierre le dit, c'est toujours Pierre qui parle ici, Pierre le dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il ajoute un autre aspect, une autre dimension. Il parle du don, de recevoir le don du Saint-Esprit, en passant justement par le baptême. C'est ce qui est propre au Nouveau Testament. C'est la promesse de recevoir le Saint-Esprit qui, dans son ensemble, n'existait pas à l'époque de l'Ancien Testament. Il y a donc un lien entre le fait de se convertir, comme nous venons de voir dans Actes chapitre 3, verset 19, associé avec le repentir, le changement, et le fait de recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a décidé de suivre la voie de Dieu, qui suit la voie de Dieu, qui a changé. Et quand nous sommes convertis, à notre époque, nous sommes passés par le repentir, par le baptême, par immersion, et nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est pas que nous avons gagné le Saint-Esprit. Dieu nous donne son esprit parce qu'il veut nous le donner, mais il y a des conditions. La personne doit prendre la décision et la personne doit bien sûr se repentir et venir vers Dieu. C'est un don, le don du Saint-Esprit, comme nous venons de voir dans Actes chapitre 2 et le verset 38. Et c'est aussi une promesse, je vous donne deux références, je ne m'y rapporte pas, qui prouvent que c'est aussi une promesse. Actes chapitre 1 et le verset 4 et 5, Actes 1, 4 et 5, Éphésiens chapitre 1 et le verset 13. Éphésiens chapitre 1 et le verset 13. Le huitième chapitre de Romains nous donne une définition très précise, très claire d'un chrétien. Romains chapitre 8 et le verset 5. Romains chapitre 8 et le verset 5. Nous lisons ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il y a deux possibilités. Quelqu'un qui est un chrétien a subi un changement, il s'est repenti, il s'est converti, et c'est souvent une vraie lutte dans sa vie après. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il faut un autre état d'esprit. Il faut ce changement radical. dont nous avons parlé tout à l'heure. Verset 9. Première partie du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc il donne la définition d'un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu au-dedans de lui, qui a reçu l'esprit de Dieu. Verset 9, la deuxième partie. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'inverse est aussi vrai. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas chrétien, il n'est pas converti. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut que cet esprit qui est au-dedans de nous soit vivant. S'il a été converti, s'il est toujours converti, cet esprit est actif dans sa vie. Il n'est pas parfait, mais le Saint-Esprit est présent dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un devient converti? Hébreux chapitre 5, le verset 11. Hébreux chapitre 5 et le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, mais il est un enfant. Et au début de notre conversion, nous sommes des enfants. Mais un enfant est appelé à croître. Nous aurons besoin par la suite, si nous sommes un jeune converti, de nourriture solide. Mais qu'est-ce qui se passe si un chrétien, quelqu'un qui est converti, tombe et pêche? Ce n'est pas que son repentir initial n'était pas valable. 1 Jean chapitre 1 s'adresse à des chrétiens, des gens convertis. Regardons 1 Jean chapitre 1 et le verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le Christ, en parlant lui-même, a dit « Je suis la lumière du monde ». Donc un être humain a la possibilité de marcher sur deux sentiers différents, soit dans les ténèbres, soit dans la lumière. Et un chrétien marche avec Dieu dans le chemin de la lumière. Mais si nous trébuchons, ce n'est pas que nous avons pris la voie des ténèbres, où il n'y a aucune lumière, où c'est pas éclairé du tout. Il s'est déjà détourné. Un chrétien s'est déjà détourné de cette voie-là, de la voie des ténèbres. Mais nous sommes des créatures d'habitude. Et il nous reste des anciennes habitudes dans notre vie. Il nous faut un effort avec l'aide de Dieu, un effort considérable pour s'en sortir, pour s'en débarrasser. Il nous faut apprendre à vaincre. Comme c'est marqué dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, je ne m'y rapporte pas, nous connaissons bien l'Écriture, 2 Pierre chapitre 3, verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous n'avons pas, si nous trébuchons, nous n'avons pas tourné le dos à Dieu. Si notre désir est toujours le désir d'obéir sincèrement à Dieu. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ici Jean est réaliste, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est tout le sens de la fête des pains sans levain. Nous sommes loin d'être parfaits. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché. Et même sur le sentier éclairé, nous trébuchons, nous tombons, c'est inévitable. Nous cherchons bien sûr à obéir à Dieu avec tout notre cœur, mais nous sommes des êtres humains, et parfois nous sommes pris de court, nous sommes distraits, nous sommes séduits, par exemple, par un faux Dieu. On est peut-être moins zélés. Nous pouvons être pris de court quand Satan nous attaque. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de « si » dans ces versets. Le verset 6, « si », le verset 7, « mais si », le verset 8, « si nous disons ». Le mot « si » parce que nous avons des choix, nous avons des décisions à prendre. Et ça continue avec le verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner » et pour nous purifier de toute iniquité. Là, de nouveau, nous avons tout le sens de la fête des pains sans levain. Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui va faire ceci. Il ne va pas abandonner Dieu, même quand il trébuche, même quand il tombe, il va se relever. Il va l'admettre, il va se repentir, et il va demander pardon à Dieu. Et il ne s'agit donc pas de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Sinon, nous allons nuire à notre propre conversion. C'est la réalité de la vie. C'est ce qui est indiqué dans Proverbe chapitre 24 et le verset 16. Proverbe chapitre 24 et le verset 16, je lis. Car sept fois le juste tombe et il se relève. Sept fois le juste tombe, il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. D'un côté, ce verset est encourageant parce que il y a deux voies et si nous avons entamé, si nous avons emprunté la voie de Dieu, nous avons la possibilité, il nous faut avancer, mais il y aura des moments où nous allons trébucher. Verset 10. Si, de nouveau, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Il faut admettre ses péchés, il faut voir ses péchés, les admettre, par exemple, quand on trébuche, quand on tombe. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Toujours converti? Oui. Pour vous, que nous puissions continuer le chemin, qu'on se relève et qu'on continue à avancer. Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça doit être notre objectif, notre point de mire, notre objectif absolu, de ne pas pécher. Il continue dans le verset 1. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ceci dit, c'est une lutte. Une lutte contre le péché qui dure toute notre vie. Notre nature humaine qui nous tire vers le bas, comme c'est marqué dans la Bible, le péché qui nous enveloppe si facilement. Satan qui nous décourage, le monde qui nous attire avec ses facilités, et Dieu veut que nous approfondissions notre conversion. Dieu veut que nous soyons, que nous devenions plus engagés. Dieu veut que nous changions. Et Dieu nous donne les occasions, surtout à cette période de l'année, année après année. C'est quelque chose qui est très positif, qu'il faut voir d'une façon très positive. Dans Luc chapitre 9 et le verset 23, Luc chapitre 9, le verset 23, le Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Renoncer à soi-même. Loueur, en donnant le sens de ce mot, parle d'affirmer qu'on n'a aucun lien avec quelque chose. Qu'on n'a aucun lien avec quelque chose. Et c'est le même mot que nous trouvons à propos de Pierre, quand le Christ a dit à Pierre, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Il a vraiment nié farouchement le Christ. Il faut donc rejeter le vieil homme, il faut continuer à enterrer le vieil homme et ne pas mettre notre confiance en la chair. Vous pouvez lire à la maison si vous le voulez, Philippiens chapitre 3, versets 3 à 9. Philippiens chapitre 3, versets 3 à 9. Paul ne voulait pas mettre sa confiance en la chair. Quand nous avons des problèmes, nous pouvons prier. Dieu a les réponses à nos problèmes. C'est lui qui nous a créés et qui nous connaît. Et on peut lui exposer nos soucis, nos problèmes, nos difficultés. Dieu va prendre soin de nous. Il nous faut croître. Il nous faut développer le caractère juste de Dieu, le trait de caractère de Dieu, les fruits de l'Esprit de Dieu, justement, de son Esprit. Dieu peut créer son caractère au-dedans de nous, mais il faut notre participation. C'est un choix de notre part. Il faut surmonter, il faut vaincre. Nous trouvons l'expression à celui qui vaincra ou celui qui vaincra dans Apocalypse pour chaque époque de l'Église. Nous le trouvons pour les sept époques de l'Église. Nous le trouvons sept fois dans Apocalypse. Il y a une autre phrase qui revient sept fois, donc pour chaque époque de l'Église, et c'est celle-ci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Il faut faire attention à ce que Dieu dit. Et croître, ça prend du temps. Dans un sens, nous sommes convertis à un moment précis, quand on devient un chrétien, quand on passe par le repentir, le baptême et l'imposition des mains, quand on reçoit le Saint-Esprit, à ce moment-là, on est converti, mais dans un autre sens, ça a à voir avec le fait de travailler progressivement, le fait de travailler sur sa conversion. C'est une lutte et ça se passe peu à peu dans un processus de se développer et un processus de croissance. Mais qu'est-ce qui arrive à un chrétien qui est converti? Comment est-ce qu'il est différent? Il est différent de ce qu'il était avant que Dieu l'a appelé. Il a en tête, logiquement, Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est une lutte dans son fort intérieur, c'est un combat continuel qu'il n'avait pas avant de devenir chrétien. Paul savait qu'il fallait qu'il vainque. Romains chapitre 7 et le verset 22. Romains chapitre 7 et le verset 22. Nous lisons ceci. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, c'était son désir le plus cher, d'obéir à Dieu, d'obéir à la loi de Dieu. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, mais selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif la loi du péché qui est dans mes membres. C'est une lutte. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il va y avoir une délivrance, mais il faut la puissance de Dieu. Et le verset 25 répond à la question. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Dieu qui nous fournit la force pour nous détourner du péché. Dieu fait partie de l'équation pour que nous puissions effectuer un changement. Philippiens, chapitre 2, et le verset 12. Philippiens, chapitre 2, et le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour que nous puissions chercher à faire la volonté de Dieu, Dieu veut nous aider à vaincre le péché. Parce que Dieu veut nous donner la vie éternelle. Nous ne pouvons pas espérer plus que la vie éternelle, c'est vraiment l'avenir de l'humanité. Et le fruit de la conversion, c'est la couronne de justice dont Paul parle dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Couronne de justice. Les caractéristiques de quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et ce même Saint-Esprit est vivant et dynamique dans sa vie. Comme c'est marqué dans la Bible, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a enterré le vieil homme, qui cherche à renouveler sa vie, et qui prie Dieu d'une façon personnelle. Maintenant que nous avons une meilleure idée de la conversion, nous pouvons regarder notre propre vie pour évaluer notre propre conversion et, avec l'aide de Dieu et de son Esprit Saint, devenir plus convertis.